positive Onde. Une immersion proposée par Seb Dill.
Me voici arrivé à l'instant sur le lieu du reportage d'aujourd'hui, enfin le lieu, le point de départ. Ce que je peux dire, c'est que c'est qu'il faut que je mette les chaussures de marche. Alors je vais essayer avec le micro, ça va pas être très pratique, mais on va y arriver. Là, on est quelque part dans les Pyrénées. J'ai rendez-vous avec Léo. Je crois qu'il est là.
Bonjour Seb.
Je crois qu'on va pouvoir démarrer ensemble.
Ouais, ça marche. C'est parti si ça te va.
Allez, ça me va. En plus, j'ai mis les chaussures de marche. Donc on va passer un petit moment ensemble. On va marcher, mais pas que.
Oui, en fait, on va marcher, mais on s'arrête beaucoup aussi. On observe.
Alors, on s'arrête, on observe, on marche. On va découvrir ce que Léo fait. Est-ce que, tu peux... Alors, avant de te présenter, nous présenter le matériel que tu as, parce que tu as un sac à dos avec dedans un truc qui dépasse, une espèce de tablette à la main.
Donc voilà, une tablette à la main, et donc qui est reliée à une antenne GPS qui est donc dans mon sac à dos, qui permet de me localiser. Donc voilà, une tablette avec un stylet qui permet de dessiner. Donc quelques années, on aurait été avec des morceaux de papier ou de calque. Et donc là, c'est la version moderne du crayon et du papier.
Tiens, pour une fois, si on innovait et si on s'amusait à deviner le métier que l'on découvre aujourd'hui avec Léo. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce
qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Mon travail, c'est de transformer quelque chose qui est relativement flou, qui est la réalité. En des choses assez binaires pour dire globalement au coureur tu peux passer ou tu peux pas passer. Après on a des nuances qui disent tu peux passer en courant à fond, tu peux passer en courant doucement, tu peux passer en marchant ou tu vas avoir du mal à passer ou jusqu'à ça va être infranchissable. Donc on a ce type de nuances, mais globalement c'est assez binaire, c'est ça passe, ça passe pas. Et c'est là où c'est vraiment une interprétation et c'est très très relatif des fois aussi à la saisonnalité suivant s'il y a beaucoup de feuilles et l'impression que ça va donner. On va trouver une impression où ça va être difficile de passer dans cette zone là et à une autre époque en hiver par exemple là, plus de feuilles, la même zone, on va avoir l'impression qu'on peut passer très très facilement.
Alors quel est le métier de Léo ?
Je suis cartographe. Dans un secteur particulier, je fais des cartes qui servent pour la course d'orientation. Cours, camarade.
Hop, alors là, on passe une petite barrière. Je crois qu'on va s'éloigner très vite de la route et de là où on a laissé les voitures, là.
Oui, donc le but, c'est d'aller donc dans la forêt. Dans les zones qui nous intéressent, enfin, la forêt, les prairies, donc un peu d'altitude ici, en Cerdagne plus précisément, c'est le col qui fait la jonction entre la Cerdagne et le Cap-Cir ici. Il y a tout un tas de cartes existantes, un tas de données. Donc là, c'est vraiment quelque chose de spécifique où on a besoin d'autres informations que ce qu'on trouve sur les cartes IGN et d'aller plus dans le détail. Donc d'autres informations, pourquoi ? Parce que on va utiliser ces cartes notamment pour sortir des chemins et donc on va avoir besoin d'informations. Par exemple, est-ce qu'on va pouvoir couper facilement entre les chemins ? Ou est-ce que ça va être compliqué de couper ?
Oui, parce que là, du coup, on s'aventure hors des chemins et hors des sentiers, justement.
Tout à fait, en fait. Les chemins, on ne va pas y rester beaucoup aujourd'hui. Ici, il y a beaucoup de cervidés. Énormément de cervidés. Et puis là, voilà, on passe sur un passage canadien. Il y a aussi des vaches et des chevaux qui sont en estive.
Alors ouais, tiens, je vais m'arrêter sur ce passage canadien. Tiens, on va faire demi-tour parce que ça a fait un bruit particulier, mais j'y ai pas trop prêté garde. C'est quoi? C'est un espèce de trou avec des barres en ferraille dessus sur le chemin.
Voilà, donc c'est... Hop,
et ben voilà. Et ben je me casse la gueule dedans.
Donc c'est un trou avec des barres en ferraille qui empêche les vaches de passer, mais qui permet à un véhicule ou un vélo de rouler dessus. Donc les vaches, elles veulent pas se tordre les pattes exactement comme tu viens de le faire, Seb, dedans. Elles ont peur de ça.
Alors que moi, je suis pas une vache, moi j'ai pas peur.
Voilà, j'espère que tu t'es pas fait mal.
Non, 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 tout va bien.
Bon, tant mieux.
On l'a vu, on l'a même deviné ensemble, Léo est cartographe pour les courses d'orientation. Mais c'est quoi une course d'orientation? Enfin, on imagine que l'on court et que l'on s'oriente, mais dans le détail.
C'est un sport très confidentiel en France, mais très développé dans les pays scandinaves. En fait, c'est très connu là-bas, il y a des retransmissions à la télévision. Et donc, globalement, qui consiste à aller chercher des balises qui sont positionnées sur le terrain à l'aide d'une carte, qui est notre objet aujourd'hui, et donc ça le plus rapidement possible. Donc c'est des gens qui vont courir pour aller vers les balises qui sont positionnées sur leur carte, les poinçonner et revenir au point d'arrivée dans un temps le plus court possible, donc globalement à la vitesse comme les meilleurs coureurs de trail. Donc voilà, un sport en tant que tel. Moi, je travaille pour les gens qui organisent les compétitions. Donc, ça peut être les clubs. Alors là, pour le coup, c'est la fédération qui va organiser un événement d'une semaine. Donc, 5 courses sur une semaine l'été prochain.
Là, pour préparer ces 5 courses l'été prochain sur une semaine, ça demande combien de temps de travail à toi, cartographe?
Alors, à moi, cartographe, ça demande beaucoup de temps de travail. Déjà, je ne suis pas tout seul. En fait, on va être plusieurs cartographes. On est 3 personnes sur différentes zones. Et donc, moi, je vais déjà passer environ 2 mois, au moins 2 mois, pour faire, 6 ou 7 km carrés.
Ouais, donc ça prend quand même du temps.
Oui, c'est quelque chose d'assez longue haleine parce qu'il faut arpenter le terrain pour décrire la nature et tout ce que les coureurs vont croiser de manière assez précise, on va dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude sur une carte IGN. Donc, il faut quadriller la zone et prendre le temps de noter tout ça aussi. Donc, ça prend un certain temps.
Comment? Je dis bien comment a pu-t-on en arriver là?
Pour en arriver là.
Les compétences qu'il faut avoir, alors c'est un peu un mélange, hein. On est dans un... toujours un peu à la frontière entre différentes choses. Donc là, il y a une base de ce qu'on appelle la géomatique, hein, donc qui sont...
La géomatique, c'est un gros mot pour moi, ça.
Ouais, voilà. Donc, qui sont tous les métiers qui sont liés à la cartographie, donc les gens qui travaillent... à l'IGN, qui vont gérer des données qui sont donc maintenant géoréférencées, qui sont positionnées dans l'espace avec des coordonnées. Donc ça va être tous les gens qui gèrent les réseaux de transport d'électricité qui vont avoir des cartographies aussi comme ça. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est une qui est vraiment spécifique à la partie course d'orientation. Et donc il y a toute une légende, une codification internationale qu'on retrouve. Donc globalement, la forêt, c'est blanc, et ce qui n'est pas de la forêt, c'est jaune. Donc on peut voir le soleil, donc ça apparaît en jaune. Donc c'est assez différent des cartes IGN où les parties dégagées sont blanches et la forêt est forcément verte. Donc là, basiquement, la forêt est blanche quand on peut passer très vite dedans. Et après, on a des nuances de vert. Ça va passer de blanc à vert très clair, puis vert un peu plus foncé et vert très foncé, qui vont indiquer donc la pénétrabilité, donc la vitesse à laquelle on va pouvoir courir. Donc quand c'est du vert foncé, ça veut dire qu'on ne passe plus. Et plus ça va vers le vert clair et le blanc, plus c'est de la forêt pénétrable. Donc il faut connaître cette légende. Et après, il faut avoir aussi un vécu, je dirais, en tant que coureur d'orientation aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on attend, comment apparaît le terrain quand on est en train de courir. Qu'est-ce qu'on sélectionne. Pour moi, c'est un peu un discours. Hein. La carte, je raconte quelque chose que je transcris sur la carte. Et le coureur, il fait l'opération inverse. Il prend les éléments que je lui ai donnés sur la carte pour refaire sa vision du terrain, ce qu'on appelle dans le jargon une image mentale, en fait, qui va lui permettre d'évoluer là-dedans grâce à ce qu'il a lu de ma carte.
Bah allez, on va évoluer nous aussi.
Bah allons-y.
Donc là, on quitte le chemin.
Tout à fait, voilà, on se lance dans la forêt.
Là, j'imagine qu'on ne quitte pas le chemin au hasard.
Donc en fait, il faut bien commencer quelque part. Donc là, on était à une intersection de chemin. Et donc après, j'essaye de définir un petit peu une zone sur laquelle je vais travailler dans la journée. Et donc on commence dans un coin et puis on continue de quadriller jusqu'à avoir couvert la zone.
Je suis dans la zone.
En fait, on va déjà s'arrêter parce que donc là, à notre gauche, on voit qu'il y a un premier élément qui est suffisamment significatif donc pour être mentionné sur la carte.
C'est le gros rocher, l'élément ?
Voilà, donc c'est le gros rocher qui est là. Alors tu dis c'est un gros rocher,
mais... Ouais, pour moi c'est un gros rocher, non c'est pas un gros rocher.
Alors en fait, pour moi c'est un gros rocher d'habitude aussi, mais là on est sur un terrain où il y a énormément de rochers. Et il y en a des très très gros, on va dire, à cette échelle-là. Enfin, il y a vraiment des blocs assez monumentaux. Donc voilà, on s'adapte. Si on représente chaque rocher, comme on peut le faire dans une forêt où il n'y a pas des gros rochers comme ça, ben on va se retrouver, donc c'est le rocher représenté par un petit point noir sur la carte. Tout ce qui est rocheux est représenté en noir. Ben on va se retrouver à une carte qui va être remplie de points noirs. Et donc on va plus rien y voir.
Bye bye les points noirs.
Donc là il y a un gros travail à faire de sélection pour éliminer tout ce qui sont les petits rochers et pour donner que les éléments qui ressortent du reste, qui émergent, qui va permettre voilà, aux coureurs d'avoir une représentation qui comprenne. Si je mets tous les rochers, il va rien comprendre, c'est juste un point noir au milieu de dizaines de points noirs. Par contre, si on dit là tu as un gros bloc et là tu en as un monumental, et ben il va oublier tous les petits et il va se concentrer que sur ces éléments qui sont vraiment remarquables.
Là, ça va être un subtil mélange entre tes données GPS et l'interprétation du terrain, si je comprends bien.
On a un positionnement au GPS qui fait que la précision de positionner des éléments n'est plus autant un enjeu qu'avant où on n'avait pas le GPS. Après, on a plusieurs données aussi qu'on utilise. Donc, on a des bases de relief quand même qui existent. Et on utilise aussi des photos aériennes sur lesquelles on va pouvoir voir un certain nombre de choses. Des clairières, des éléments de rocheux tels que des falaises ou ici il y a des blocs rocheux assez monumentaux qui vont apparaître sur la photo aérienne. Et donc en fait on a beaucoup de données théoriques comme ça. Mon travail ça va être de faire le tri dans tout ça pour restituer au final quelque chose qui va correspondre pas à la réalité absolue mais à ce que va croiser le coureur qui plus est en train de courir et du coup ne voit pas tout et on a aussi un manque d'oxygénation du cerveau quand on court donc on n'a pas du tout la même vision que quand on est arrêté donc voilà la carte c'est une représentation schématique du terrain donc mon travail c'est un peu de passer des données théoriques qu'on a qui vont être aussi enrichis à certains endroits, a vraiment une représentation schématique qui va être compréhensible le plus simplement possible, en fait, qui va être une synthèse, voilà. Sur une carte hygiène classique, 1 cm sur la carte représente 250 mètres sur le terrain. Voilà, sur une carte classique de course d'orientation, ça va être 1 cm sur la carte est égal à 100 mètres sur le terrain. carte est jamais juste. En fait, une carte, elle n'est jamais une représentation absolue de la Terre. Comme on sait, la planète est une gros œuf rond, globalement, enfin sphérique. Enfin, on dit, c'est plutôt une ellipse, globalement, qu'une vraie sphère. Et donc, pour pouvoir la représenter sur une feuille de papier, puisqu'au final, c'est une feuille de papier toujours hein, qui est plane, et ben, on a des petits arrangements, on appelle ça une projection. Et donc la projection, forcément, elle transforme quelque chose qui est rond sur quelque chose de plat. Donc suivant les projections, on n'est jamais totalement juste. En fait, on va être juste au centre de la projection, là où on est... Et centrer normalement la carte, et plus on s'éloigne, plus ça va être faux. Donc suivant les méthodes qu'on utilise, on va plus conserver des surfaces qui vont être à peu près équivalentes, ou on va plus conserver des angles, des directions qui vont être bonnes. Mais il faut voir que savoir, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, même si à l'échelle de notre carte, ça va pas apparaître, mais dans l'absolu, une carte, c'est jamais... exactement la représentation du terrain.
Alors c'est pas forcément radiophonique, mais on n'entend rien ou presque rien, c'est très calme.
Ah ça oui, hein, c'est dans le calme. Alors bon, des fois il y a un peu les randonneurs sur les chemins, mais voilà, on a tendance à surprendre souvent les animaux, et ils sont assez peu craintifs parce qu'on se déplace pas beaucoup et on fait très peu de bruit en fait. Et on se rend compte que l'humain en général fait beaucoup de bruit parce qu'on entend des personnes qui randonnent arriver assez longtemps à l'avance. Comme on est tout seul dans le calme, dès qu'il y a un groupe qui arrive, on l'entend au loin. Et ça apparaît très bruyant par rapport à l'environnement général. On se rend compte que l'humain est très, très bruyant. Ne serait-ce que quand il discute ou quand il parle.
La terre entière.
Donc là j'ai déjà une base de relief et de courbes, mais qui est relativement floue. Et donc on va dessiner la courbe de niveau, mais en amplifiant en quelque sorte les choses pour qu'on voit vraiment le mouvement. Donc il y a deux choses, il y a d'une part on amplifie un petit peu pour qu'on comprenne mieux la représentation. Et d'autre part, la base qu'on a de relief, elle est un petit peu imprécise, donc il faut qu'on rectifie des choses sur le terrain. Donc le mouvement peut être en fait en réalité plus prononcé que ce que j'ai sur ma base. Et moi, d'un autre part aussi, je peux amplifier un petit peu le mouvement pour qu'on le voit vraiment visuellement au rendu final. Je suis le relief et la courbe pour voir ce qu'elle décrit, et donc ça permet petit à petit de la tracer. Et donc avec mon positionnement du GPS aussi, je peux confirmer que ce que j'ai tracé correspond à peu près aux choses. Donc on parlait des courbes de niveau, donc on a effectivement cette base, mais il y a aussi donc une part d'expérience où avec l'habitude on sait à peu près tous les combien on a une courbe de niveau. On arrive à appréhender ça et à avoir en tête l'échelle et dire la prochaine va être à peu près à ce niveau-là. Donc là aussi, par exemple, on a des traces de l'exploitation forestière. Donc on mentionne sur la carte, hein, donc par exemple une zone de coupe. Et vient de franchir aussi... une trace d'engin de débardage, donc il va faire un peu comme un sentier, hein, et qui va être mentionné sur la carte. Donc on appelle ça un layon forestier, donc qui est mentionné un peu comme un chemin, comme un sentier.
Est-ce que ça veut dire que les cartes ont une date de péremption?
Oui, tout à fait. En fait, les cartes, c'est lié à la nature, à l'environnement. Et l'environnement, il est jamais figé, il évolue en permanence. Et donc les cartes doivent évoluer. Donc il y a des choses qui restent assez immuables, comme le relief ou les rochers, mais la végétation évolue, va évoluer, ou suivant les exploitations de l'homme. Et donc ça peut évoluer assez vite, ouais. Donc c'est pour ça, là on se donne un an entre le moment où on fait la carte et l'événement où qui va utiliser la carte, pour ne pas qu'il y ait trop de décalage. On essaye de se renseigner aussi sur les potentiels travaux forestiers qu'il peut y avoir, pour ne pas se retrouver avec des zones qui ont totalement changé entre temps. Mais c'est en évolution permanente.
Là on arrive dans une zone, il me semble, mais avec mon œil de non-averti et de non-initié, mais il me semble quand même que la végétation change un petit peu. Ça vient de quoi? De l'orientation, de la nature du sol?
Oui, il y a différentes choses qui jouent, hein. Là, c'est une zone très, très dégagée. Après, on mentionne pas forcément tous les détails de changement de végétation. Ce qui est important de raconter, encore une fois, c'est: est-ce que tu vas pouvoir vraiment courir à pleine vitesse ou pas? Et que les arbres soient un peu plus serrés ou un peu plus écartés, ça fait un changement, mais c'est pas une information que je reporte, en tout cas.
Là, on suit particulièrement et parfaitement la courbe de niveau, parce qu'on est on marche relativement au plat, mais on suit ce que j'appellerais, je sais pas, tu vas me dire, j'appellerais ça un sentier de bêtes, c'est-à-dire un endroit où qui est pas forcément tracé par l'humain, mais par des bêtes. Est-ce que ça veut dire que ça va nous emmener à un point particulier, je sais pas, une source
Ouais, donc lui, on suit ce qu'on appelle une sente, hein, qui est une espèce de petit sentier fait par les bêtes. Alors les plus marqués vont presque ressembler à un sentier et vont pouvoir être cartographiés. Bon, celui-là, il est vraiment diffus, donc puis il y en a plusieurs dans la zone. Il y a beaucoup de cervidés, et ça nous amène, là on risque de tomber sur ce qui ressemble à une tourbière, donc plus ou moins un point d'eau, une zone un peu plus marécageuse. Donc c'est vrai que c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'animaux qui arrivent par ici à flanc pour aller s'abreuver ou quelque chose comme ça.
Donc en tant que randonneur, ça peut être une bonne idée éventuellement de suivre aussi des chemins de bêtes.
Alors ça dépend le chemin de quelle bête, hein. Le sanglier, il va pas forcément avoir les mêmes caractéristiques que nous pour passer. Donc ça, si on suit sa sente, des fois elle va nous emmener vraiment dans la broussaille. Mais il y a souvent, oui, beaucoup plus de chemins qui arrivent vers un point où il y a de la nourriture, où il y a de l'eau. Et puis les bêtes aussi, quand c'est des zones qui sont de forêts plus denses, elles passent pas n'importe où, elles passent là où c'est plus dégagé. Donc c'est plutôt des passages qu'on suit aussi, c'est notre côté un peu animal, parce que c'est les passages qui sont les plus évidents pour évoluer, plutôt que de se battre contre de la végétation qui nous empêche de passer. Donc voilà, on arrive là sur une zone humide. Donc
parce qu'on a suivi un sentier de bêtes.
Voilà.
Non mais j'y tiens.
En tout cas, le sentier nous amène, et puis on voit qu'il y a une petite flaque là où il y a sûrement un peu plus d'eau pour boire pour les animaux. Mais donc on voit que la végétation change clairement. Donc dans les zones de montagne comme ça, c'est souvent sur un replat, plus rarement dans une pente. Et donc on va mentionner ça en tant que marécage. Alors pareil, on a plusieurs nuances entre une zone qui va être légèrement humide, on va traverser sans trop de problèmes, une zone qui va être vraiment marécageuse, jusqu'à un lac, hein, on va dire. Donc là c'est vraiment significatif, hein, quand on arrive là, ça change vraiment de la zone de forêt très dégagée on était avant, où le sol est sec. Là ouais, y a des herbes, Il y a des plantes plus hautes, des plantes qui aiment l'humidité.
C'est beaucoup plus vert et plus grand en fait.
Oui, c'est très marqué. Et puis, donc, si on commence à mettre les pieds dedans, ça va être boueux. On va s'enfoncer ou ça va faire plotch-plotch.
On va essayer si on fait plotch-plotch.
On peut essayer. On va essayer de pas trop se mouiller les pieds parce que...
Ah bah oui, on fait plotch-plotch.
Donc voilà. Donc là, c'est très visible au niveau de la végétation. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus diffus. Mais en général, quand on met les pieds dedans, on sait qu'on est dans les zones marécageuses. Voilà, ça c'est une information importante pour le coureur parce que c'est un point de repère très, très significatif. On les mentionne sur la carte. Et donc après, au niveau environnemental, il peut y avoir des zones qui sont plus sensibles. Donc il y en a qui peuvent être interdits en course, on peut même sur certaines zones on sait que les coureurs vont passer, les signaler avec donc de la rubalise autour pour éviter s'il y a une plante particulière qui pousse dedans ou quelque chose comme ça, éviter le piétinement.
Est-ce que ça t'arrive sur des sentiers de croiser des personnes qui te demandent qu'est-ce que tu fais avec ta tablette, ton truc qui dépasse du sac ?
Oui, ça arrive. Alors plus souvent quand on cartographie des environnements urbains que dans la forêt, parce que comme on est beaucoup hors sentier, on croise peu de monde et puis bon, ils doivent souvent me prendre pour un randonneur. Mais en ville, ouais, on est souvent questionné. C'est pas toujours facile de répondre rapidement, puisque comme il faut déjà une demi-heure pour expliquer tout ce que je fais ici et tout ce que je vous ai raconté jusque-là. Donc, dis succinctement que cartographie, après les gens relient ça à Google, à ce qu'ils voient. Bon. On fait des cartes aussi qui servent, c'est pratiqué beaucoup dans les écoles. Les collèges, donc dans les activités de pleine nature, donc il y a des cartes qui servent pour l'apprentissage de la discipline, qui peut aller de la cour de l'école vraiment sur des toutes petites zones, à un parc en ville, à des petites zones naturelles.
Là on enregistre, on est à l'été 2022, c'est une course d'orientation qui aura lieu à l'été 2023, est-ce qu'on sait de quelle course il s'agit ?
Oui, donc là c'est pour l'été 2023, donc c'est un événement qui s'appelle Haut France, donc qui est porté par la Fédération Française de Course d'Orientation. Donc c'est 5 courses sur 5 jours, donc plus ou moins pendant une semaine, avec un classement cumulé sur les 5 courses. Donc ça va attirer environ 2000 coureurs qui vont venir d'un peu partout en France, mais également de l'étranger. Donc là on n'est vraiment pas très loin de la frontière espagnole, mais cette zone ici elle est assez réputée pour sa technicité et ce type de terrain, donc ça va sûrement attirer aussi beaucoup de coureurs étrangers, donc sûrement des Scandinaves. Donc comme je disais, c'est un sport qui est très développé en Scandinavie, donc il y a énormément de coureurs là-bas, donc voilà, il risque d'y avoir aussi pas mal d'étrangers sur ces courses-là.
Alors là, on va se quitter. Quel est le programme de la journée là ? Tu vas rester dans cette zone, tu vas suivre à peu près les courbes du niveau ?
Je vais continuer à quadriller la zone. Je vais sûrement repasser au-dessus du rocher qu'on a positionné tout à l'heure. Et continuer à décrire cette zone de forêt.
Merci pour leur participation bien involontaire à Pierre Vassiliu, Alex Baupin, André Dassary, Benoît Poulvorde, Dalida, Chaton, La Féline. Musique additionnelle, John Bartman. Et merci à Léo pour tout ce temps que l'on a pu passer avec lui.
Positive Onde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. Info sebdihl.fr sebdil.fr.
C'est fini.